Oui, la présence de Dieu. Jésus a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Donc si nous voulons que la présence de Dieu grandisse, elle sera proportionnelle à la façon dont nous honorerons sa parole. Ça ne peut pas être autrement. Quelqu'un qui n'honore pas la parole de Dieu ne verra pas la présence de Dieu dans sa vie. Il peut rêver tant qu'il voudra, il ne la verra pas se manifester. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, nous avons vu mardi dernier la première partie de ce chapitre par rapport au procès que des frères pouvaient s'octroyer les uns les autres quand ils étaient en désaccord. 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons pas relire les 8 premiers versets, nous allons lire la fin du chapitre à partir du verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Voilà donc notre désir, c'est de glorifier Dieu. Des chrétiens, ils ont vraiment le souci de rendre un bon témoignage. Quand on chante des cantiques aussi profonds que ceux que nous venons de chanter, rends-moi conforme à toi. Je veux de plus en plus ressembler au Seigneur. Donc j'ai donné comme titre à ma prédication, j'appartiens au Seigneur, donc je marche dans la sainteté. Si j'appartiens à Dieu, je ne peux pas faire autrement que de faire en sorte que le nom du Seigneur soit sanctifié dans ma vie. Il ne peut pas en être autrement. Nous avons vu dans la première partie, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons vu combien un chrétien ne devrait jamais faire un procès à un autre chrétien. Et ça arrive, ça. On entend dire par-ci, par-là, que dans telle église, il y a eu des procès entre frères, entre pasteurs et conseils d'administration. Ça vous montre quoi? Alors, on ne va pas revenir sur le sujet, mais ça vous montre une chose, qu'un homme qui a été touché par la grâce de Dieu, il peut redevenir très très vite charnel et égoïste, parce qu'il est égoïste et parce qu'il ne veut pas pardonner. Il ne sait plus ce que c'est le pardon. Si vous ne pardonnez pas, vous êtes charnel et ça devrait d'ailleurs très mal se terminer pour vous. Un chrétien, il doit vivre dans le pardon. Vous êtes d'accord? D'ailleurs, ça fait partie du Notre Père. Ça fait partie du canevas, de l'enseignement que nous avons reçu de la part de Jésus, pardonne-nous nos offenses. Ce n'est même pas des gros péchés, nos offenses. Nos offenses, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous avez déjà été offensé? Est-ce que déjà quelqu'un vous a offensé? Non? C'est bien, vous devez rêver sûrement. Mais on a été offensé, on a commis des offenses, on a offensé. On doit vivre dans le pardon. C'est quelque chose d'incontournable. Un chrétien, il vit dans le pardon. Il est continuellement en train de pardonner. un chrétien qui ne pardonne pas. D'ailleurs, vous connaissez ce texte. Ça vaut quand même la peine d'y revenir, parce que Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe qui avaient tout reçu. Ils avaient tous les dons. Il ne leur manquait rien. Même Paul leur dit à un moment donné, mais vous avez même commencé à régner, tellement ils avaient reçu. Et pourtant, ils redevenaient charnels à une vitesse phénoménale, ce qui fait qu'à la fin, certains ont perdu le salut parce qu'ils n'ont pas voulu pardonner. C'est le seul commentaire. Alors on va lire quand même ce texte, parce que je sais que vous les connaissez peut-être par cœur. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus enseigne comment prier. Alors il ne faut pas réciter des prières, mais il enseigne la prière. Voici comment vous devez prier, Matthieu 6, 9. Notre Père qui es aux cieux. Ça veut dire quoi ça, notre Père qui es aux cieux? Qu'il faut répéter en boucle, notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux? Non, ça veut dire que la prière commence par de la louange, notre Père. Vous êtes heureux si vous pouvez dire à Dieu qu'il est votre Père. Je peux vous dire que vous êtes heureux. Si vous pouvez de tout votre cœur dire, mais le Créateur du ciel et de la terre, c'est mon Père. Voilà, la prière, ça commence toujours par de la louange. Vous êtes d'accord avec ça? Vous aimez adorer le Seigneur? Si vous commencez de suite, Seigneur, donne-moi, 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 c'est pas bon signe. Notre Père qui es aux cieux, voyez. Après, de suite, ça part sur la sanctification, que ton nom soit sanctifié. Aucune prière ne sera bénie vraiment si nous ne vivons pas dans la sainteté, c'est ce que nous allons voir ce soir. Après, il dit, voyez, au verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à celui qui nous a offensés. Et quand il finit la prière, je vous ferai remarquer, le seul commentaire au verset 15 qu'il fait sur l'enseignement sur la prière, c'est sur le pardon. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le seul commentaire que Jésus s'autorise à faire par rapport à l'enseignement sur la prière, c'est par rapport au pardon. Donc ça prouve que le pardon a une immense importance dans la vie du chrétien. On est sujet à des problèmes, des conflits. Pourquoi les foyers chrétiens divorcent? Vous avez vu ça? Ça ne vous fait pas de la peine, ça, de voir ça? Pourquoi? Ben parce que les gens ne se pardonnent pas. Vous pouvez le calculer comme vous le voulez. Quand un couple vit dans le pardon, il y a de l'amour qui est maintenu, entretenu. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Ça va loin, cette affaire. Matthieu 18. Ça va loin. Vous savez, le pardon, c'est un enseignement qui va très loin dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 18, Jésus enseigne. Il enseigne sur la prière, la discipline dans l'Église, que combien on doit faire les choses comme il faut. Et justement, Pierre a compris, et il pose une question. Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Vous connaissez cette parabole? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Parce que les pharisiens, ils avaient dans leur loi, vous savez, ils avaient 365 commandements, je ne sais pas combien d'interdictions. Voilà, ils avaient une loi qui disait, voilà, si ton frère a péché, il pêche contre toi 7 fois, bon, ben, 7 fois, déjà, c'est bien. Après, la 8e fois, écoute-tu. Voilà. Mais Jésus va lui dire, non, c'est pas 7 fois. C'est 70 fois, 7 fois. Et à la fin, il explique ce qui se passe. Regardez bien. Versets 34 et 35. Son maître irrité devant quelqu'un qui n'a pas pardonné, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous voyez que le pardon, c'est quelque chose d'archi important. Le pardon, c'est une décision. Écoutez-moi mes frères et sœurs, bien des chrétiens vont tomber dans l'apostasie. Bien des chrétiens se seront fait absorber par l'iniquité, parce qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et le diable s'en donne à cœur joie avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Le chrétien, il a une volonté. Dieu nous a donné une volonté. Et le pardon, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Dieu demande de pardonner, c'est que je peux pardonner. C'est facile, c'est pas facile. Est-ce que c'est facile de pardonner? Est-ce que c'est facile de pardonner? Ben, des fois, c'est pas facile. Soyez honnêtes. Mais on peut pardonner. Seigneur, j'arrive pas, donne-moi la grâce de pardonner. Et Dieu vous donnera la force de pardonner. Le pardon, ce n'est pas une émotion. Le pardon, ce n'est pas un sentiment. Le pardon, c'est un acte de volonté. Je choisis de pardonner. Sur la croix, la première parole de Jésus, qui est sortie et qui a certainement époustouflé tout le monde, c'est « Pardonne-leur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Avec tout ce qu'ils venaient de vivre. Un chrétien, il pardonne. Si vous ne pardonnez pas, vous rétrograderez. Ou vous êtes déjà rétrograde.
vous pouvez le calculer comme vous voulez, dire mais non, c'est pas vrai, tu ne nous comprends pas. Si, si, je comprends très bien. Si vous ne pardonnez pas, vous désobéissez. Oui, on peut. Et alors moi, demander pardon, mais vous rigolez. Moi, demander pardon à mes enfants. Parce que j'étais un mauvais papa. Demander pardon à mes enfants. Je ne veux pas perdre mon autorité. Alors dites-moi, est-ce qu'on perd son autorité parce qu'on demande pardon? Mais au contraire, c'est évident. On ne perd pas son autorité quand on s'humilie. On ne perd pas son autorité quand on est humble. Jésus, vous rappelez ce qu'il a fait Jésus? Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas convertis, que Jésus est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est le Créateur du ciel et de la terre. Et un jour, il a pris un linge, il a pris une serviette, il s'est fait serviteur. Il a pris une bassine d'eau, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est comme un serviteur à quatre pattes, et il a lavé les pieds des apôtres. Oui ou non? Il aurait pu dire à Pierre, écoute Pierre, je vais vous enseigner ce que c'est l'humilité. Je vais vous enseigner ce que vous avez à faire. Pierre, allez, dépêche-toi, va chercher une bassine avec de l'eau froide, une serviette. Allez, asseyez-vous là en file indienne. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Il aurait pu le faire. Pas comme ça, bien sûr, mais il aurait pu le faire. Et ça aurait été très, 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 très bien. Il n'a pas fait ça. Il s'est humilié. Est-ce que Jésus en a perdu son autorité? Au contraire, ça ne fait que l'élever. Parce que la Bible dit que celui qui s'abaisse, eh bien, Dieu l'élève. Et quand j'entends, moi, oh non, moi, je ne vais pas demander pardon. Hein, je vais pas. Oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Eh bien, ils vont penser que vous obéissez. Et il y a des gens qui se sont mis en bras toute leur vie, qui se sont mis dans la misère. Toute leur vie, parce qu'ils n'ont pas su demander pardon. Un pasteur doit savoir demander pardon à une église s'il a commis une erreur. Oui ou non? Mes frères et sœurs, si vous ne savez pas demander pardon, c'est que vous n'avez pas l'Esprit de Christ. Vous savez, quand on chante des cantiques comme celui qu'on a chanté, « Rends-moi conforme à toi », ça nécessite cette simplicité. Oui, le pardon, c'est une bénédiction. Il y a un livre que j'ai vu deux ou trois fois là-bas, qui est excellent. Le titre, c'est « Le pardon, une puissance qui libère ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un livre, il est excellent. C'est tout un bouquin qui explique tous les textes bibliques sur le pardon. Et si vous avez une difficulté, eh bien, lisez ce livre, il vous fera beaucoup de bien. Oui, les Corinthiens s'étaient fait piéger par les conflits. Parce que des conflits, il y en a. Il y en a toujours des conflits. Est-ce que vous avez déjà eu des conflits? Est-ce que vous en aurez des conflits? Avec qui on peut avoir des conflits? Avec qui? Avec quelqu'un. À partir du moment où on est en contact avec quelqu'un, on peut être en conflit avec cette personne. Et c'est normal. Mais nous devons veiller. Et ça a été écrit dans ce sens. D'apprendre à dire, mais non, je refuse un procès. Paul a plus leur dit, mais réfléchissez. C'est vous qui allez juger les anges. C'est vous qui allez juger le monde. Et vous n'êtes pas capable, lorsque vous avez un conflit, de le régler d'une manière spirituelle. Mais comme il redevenait charnel, et à quoi on reconnaît un chrétien spirituel, c'est qu'il pardonne. Un chrétien qui ne pardonne pas est un chrétien charnel. Alors il y a un verset que j'aurais aimé qu'on lise ensemble, c'est quand Paul écrit aux Galates, hein, c'est un peu le même principe, il leur pose une question, Galates 5, verset 7, c'est une question qui indique pourquoi toutes ces lettres en plus ont été écrites, Galates 5, verset 7, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Pourquoi? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Parce que la vérité, on ne la croit pas. On obéit à la vérité. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, la vérité, c'est merveilleux, mais ils n'obéissent pas. Et le Seigneur, il va revenir chercher ceux qui obéissent. C'est écrit ça ou c'est pas écrit? Oui, c'est écrit. Voilà une des raisons pour laquelle les chrétiens perdent la foi, rétrogradent. C'est parce qu'ils ne savent pas pardonner. Il faut savoir bénir, même ceux qui vous maudissent. On peut prendre un texte dans 2 Samuel, pourtant c'est pas rien. Hein. 2 Samuel, vous regarderez tout le contexte, chapitre 16. David a connu l'adultère, il va le payer cher, il va le payer très, très. De toute façon, le péché, ça coûte cher. Hein. On le paye cher. Même si Dieu pardonne, il ne faut pas oublier que le péché, ça coûte cher. Dans 2 Samuel, au chapitre 16, il est en train de fuir. On se demande comment on peut en arriver là. Et pourtant, c'est écrit pour qu'on fasse attention. Vous savez, des fois, on dit, oui, David, il a commis le péché, Dieu l'a pardonné. Mais il faudrait lire tout ce qu'il a vécu pour peut-être ça ferait réfléchir davantage. Croyez-moi. Et il est là en train de fuir. Il fuit. Vous voyez, c'est terrible. Et puis, regardez, 2 Samuel, chapitre 16, verset 5. 2 Samuel, chapitre 16, verset 5.
David était arrivé jusqu'à Bachourim, et voici, il sortit de là un homme de la famille, de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Pourtant, si vous lisez tout ce qu'avant, ce n'était pas marrant, je vous le dis. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme !» L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, donc c'était le général de l'armée, fils de Teruya, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Vous voyez comment il était, c'était expéditif. Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Teruya? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. » Vous lirez la suite, verset 13. David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Vous lirez le contexte, vous dites, c'est pas vrai, c'est pas David. C'est pas possible. C'est pas possible qu'un homme comme ça en soit arrivé à cette affaire. À autant il a été rabaissé. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, s'il maudit, ben laisse-le maudire. Vous savez, David, c'est quelqu'un, David. Mais ça vaut la peine de lire ces choses. Parce que tout ça, c'est la conséquence de son adultère. Et heureusement qu'il a su avoir ce cœur et à un moment donné cette repentance pour l'amener à la restauration. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, il faut le prendre au sérieux, mes frères et sœurs. Il y a des choses, il ne faut pas jouer avec le péché. Ce chapitre-là que l'on voit indique vraiment l'importance de savoir pardonner, de savoir bénir. Et même quand on est outragé par des propres amis, il le dit dans un autre psaume. Si c'était un ennemi qui m'outrage, je l'accepterais, mais toi, mon ami. Alors, la suite. On ne va pas revenir là-dessus, mais mes frères et sœurs, c'est important parce que bien des problèmes viennent de là. On n'a pas pardonné, on s'aigrit. Quand on s'aigrit, qu'est-ce qui peut se produire? Quand on ne pardonne pas, on est aigri. Quand on est aigri, on a de l'amertume. Quand on a l'amertume, on a de la haine. Et la Bible dit que celui qui a de la haine, il est dans les ténèbres. Vous voyez comment on a vite fait de revenir dans les ténèbres. Alors, un chrétien, la suite, ce qu'on a lu, nous indique qu'un chrétien, il cherche à avoir un bon comportement. Est-ce que c'est important pour vous le bon témoignage? Ou est-ce que vous dites, oh, moi, ce que les autres pensent de moi, ça m'est égal, je m'en fiche. Eh bien, je vous plains. On le verra plus tard. Mais vous allez voir que ceux qui parlent de cette façon, ils pêchent contre Christ. On le verra plus loin, parce que là, dans le chapitre, c'est au chapitre 8 qu'il dit que quand on pêche de la sorte, on pêche contre Christ. Ça va loin, cette affaire. Donc, un chrétien, il doit avoir un comportement différent que les gens du monde. Vous êtes d'accord? Un chrétien, il ne considère pas les choses du monde comme les gens du monde considèrent les choses. C'est important. Les gens du monde, ils sont du monde. Ils parlent comme le monde. On l'a vu. Moi, j'ai été choqué. Pas par ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, parce que moi, j'avais dit à ma femme, 6 mois avant, ces gens-là, ils vont se faire massacrer. Vous pouvez demander à ma femme si je ne lui ai pas dit 2 ou 3 fois avant, 6 mois avant. Mais ce qui m'a choqué, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui m'a choqué, c'est que ma femme a dit, viens voir ce que certains chrétiens ont mis sur leur page Facebook. Et moi, je vous assure, je ne l'aurais pas cru. Ce qui vous prouve combien certains chrétiens parlent exactement comme les gens du monde. Ils n'ont pas cette perception qui est décrite là dans ce texte. Un chrétien, il voit les choses comme Dieu les voit. C'est quoi la sagesse? C'est voir les choses comme Dieu les voit. Oui ou non? Et quand vous voyez des chrétiens qui parlent exactement comme les gens du monde, ça prouve ou qu'ils ne sont pas convertis, ou qu'ils sont vraiment retombés dans le monde et qu'ils ont complètement rétrogradé. Qu'est-ce que vous... Alors, ils parlent de la débauche, de l'idolâtrie, de l'adultère, de la dépravation, de la cupidité, de l'ivrognerie, de l'homosexualité, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de ces choses? C'est pas grave. Maintenant, ça fait partie de la société. L'État a voté des choses légales, donc on peut y aller de bon cœur. Le Pax, est-ce que c'est légal le Pax? Est-ce que c'est légal le Pax? Oui, c'est légal. Mais devant Dieu, c'est pas légal. C'est de l'inconduite. Oui ou non?
Et y a, moi, j'ai entendu des chrétiens, oh, mais si le parc c'est légal, eh bien, on peut marier les gens qui ne sont pas mariés, s'ils sont unis sous le seul, par le pax. Alors, est-ce qu'on peut unir? Est-ce qu'on peut baptiser des gens qui sont paxés? Eh bien sûr que non. Mais si vous, écoutez, si, ne venez pas me poser des questions à la fin. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec Dieu. C'est clair. Ne venez pas m'embrouiller avec ça. Ça ne sert strictement à rien. Ce sont des choses... Ce n'est pas parce que le monde a légalisé certaines choses qu'elles sont acceptées par Dieu. Dieu n'acceptera jamais l'inconduite, l'homosexualité, l'ivrognerie, toutes ces choses-là, l'idolâtrie. Elles ne seront jamais acceptées aux yeux de Dieu. Même si le monde ou les religions essaient de nous faire croire que Dieu a changé, que Dieu évolue. Vous savez, il y a une église qui s'appelle l'église de la Libération à Paris. Ils partent du texte de la femme adultère. Quand elle s'est trouvée devant Jésus, vous savez que les gens, ils allaient la lapider et que les anciens ont été interpellés par une parole de Jésus, que celui qui n'a pas péché lui jette le premier la pierre. Non. Et tous, du plus ancien au plus jeune, ils se sont retirés. Et qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme? Je ne te condamne pas non plus. Et les gens, ils partent de ce texte pour dire, voyez, même Jésus n'a pas condamné l'adultère, donc ce n'est pas à nous de condamner l'adultère. Et on en reste là-dessus. Mais Jésus n'a pas dit que ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Et voilà, on va le lire. Mais c'est grave, parce qu'il y a des chrétiens qui gobent ça. Parce que les gens ne lisent pas la Bible. Moi, je vous assure, ces temps passés, j'ai discuté avec des gens, et je peux vous dire qu'ils ne lisent pas la Bible. C'est obligé. Je ne peux pas prendre le temps de vous l'expliquer, mais je vous assure que c'est vrai. Donc, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Et voyez, et cette fameuse église de la libération... qui libère non pas du péché, mais de la culpabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez? C'est grave, hein? Mais mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'on reconnaîtra les véritables disciples. Si vous êtes mes disciples, si vous gardez ma parole. Alors, bien sûr qu'il faut aimer ces pauvres gens, mais on ne peut pas accepter ces choses. Jean chapitre 8, verset 10. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Mais il ajoute, va et ne pêche plus. Vous voyez mes frères, bien sûr que le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver, mais il faut abandonner le péché. Il faut abandonner le péché. Mes frères et sœurs, mais moi je vous assure, moi je vais de temps en temps sur les actualités chrétiennes, voir ce qui est en train de se passer dans le corps de Christ, dans le monde entier, mais c'est grave, les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens ne connaissent pas la parole et ils s'imaginent que tout va bien se passer. Moi, je peux vous dire que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, si vous voulez vivre dans l'homosexualité, eh bien, vivez-y. Moi, à la limite, c'est votre problème. Hein. Ne croyez pas que je vais m'offusquer, c'est votre problème. Que celui qui se souille, ben, se souille. Et que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Et ce soir, nous sommes sous le regard de Dieu. N'oubliez pas une chose, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que ce n'est pas lui qui va changer. On est en train de... Vous avez vu dans certaines dénominations, on est tout le temps en train de changer la doctrine. Et il faut faire évoluer les choses. On n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus au 1er siècle. Il faut y faire évoluer. Non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le péché, ça sera toujours mal. Et c'est vrai que l'ennemi essaiera de nous faire taire pour qu'on tolère ces choses, mais pour que Dieu ne bénisse pas. Est-ce que nous voulons la bénédiction du Seigneur? Vous voulez aller au ciel? Vous voulez aller au ciel? Eh bien, mes frères et sœurs, ces choses-là, nous ne pouvons pas les approuver. Si Dieu les condamne, nous devons les condamner. Si Dieu a dit que c'est mal, ça sera toujours mal. Même si le gouvernement essaie de nous prouver que c'est une nouvelle moralité, c'est une nouvelle liberté, que maintenant il y a les programmes pour adultes et que les programmes pour enfants, c'est pour les enfants. Et voilà. Non, 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 le mal, ça sera le mal. Même si le monde essaie de nous faire croire que le mal, c'est bien. Mes frères et sœurs, c'est grave, hein, parce que l'apostasie est en train de rentrer dans les églises et il faut absolument veiller. Moi, quand j'entends, l'autre jour, j'ai entendu à France Info, ils ont interviewé le directeur d'un journal chrétien. Mais il a dit des choses. Heureusement qu'il n'était pas là. Je crois que je l'aurais tué. Pardon, je l'aurais étranglé. Mais il a dit des choses sur la parole, mais il ne l'a jamais lu. C'est sûr qu'il ne l'a pas lu. Mes frères, c'est grave. Hein?
Je vous assure que c'est grave. Quand Dieu dit qu'une chose elle est mauvaise, elle sera toujours mauvaise. Vous le croyez ? Et moi je vous conseille de le croire. Hein. Si vous ne le croyez pas, vous aurez de gros problèmes. Dans l'épître aux Romains, Paul parle justement que les hommes sont inexcusables face à ces choses. Parce qu'on le sait, au fond de notre conscience, on le sait. Mais on essaie de l'étouffer. Est-ce que c'est écrit dans notre conscience que le mal c'est mal et que le bien c'est bien ? Est-ce qu'on a une conscience ? Ben oui, on a une conscience. D'ailleurs, regardez au verset 15 du chapitre 2, il parle des païens. Les païens, donc ceux qui ne connaissent pas du tout la parole. Regardez Romains chapitre 2, verset 14. Quand les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ? Il est en train de dire que Dieu jugera les païens qui n'auront jamais entendu la vérité d'après leur conscience. Mais que la loi est inscrite dans leur cœur, dans leur conscience. Donc un pécheur, même quand il ment, il sait qu'il ment. Il sait qu'il fait mal. Oui ou non ? C'est ça qui est écrit. Alors vous avez vu, leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est clair, il y a des gens qui vous disent, non, le mensonge, c'est mal. Mais après, ils vont vous dire, écoute, ne dis pas aux enfants que maman a le cancer, il ne faut pas lui dire, il ne faut pas lui dire. Vous voyez, parce que comme ils ne sont pas dans la vérité, une fois ça, ils s'accusent, une fois ils se défendent, parce qu'ils ne sont pas éclairés. Mais c'est ce qui paraîtra au jour du jugement. C'est que quelqu'un qui n'aura jamais entendu... Il y en a des gens qui n'auront jamais entendu parler de Jésus sur la terre, qui n'auront jamais vu un blanc, qui n'auront jamais vu un évangile, etc., etc. Eh bien, ils seront jugés d'après leur conscience, parce que la loi est inscrite dans leur cœur. Mais si vous lisez les chapitres qui précèdent, regardez au verset 24. Par rapport aux gens qui sont inexcusables, ils n'ont pas voulu connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu, verset 24, les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu, vous avez vu, en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous lirez la suite. Vous lirez toute la suite jusqu'au verset 16 du chapitre 2, et vous verrez ce que Dieu en pense. Mes frères et sœurs, l'homosexualité, l'inconduite, l'impureté, tout ça, ce sont des choses qui sont mauvaises. Et Dieu les condamne. Et les croyants qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors c'est vrai qu'après il dit, mais il y a des choses qui nous sont permis, mais il y a des choses qui ne sont pas utiles. Alors il faut faire attention. Ça va jusque-là, la conscience. Il parle des aliments. Les aliments, est-ce que c'est bien de manger ? C'est bien de manger ? Ouais. Mais est-ce qu'on peut se passer de manger ? Non, on ne peut pas. Vous voyez ? Il y a des choses, on peut s'en passer. Il y a des choses, on ne peut pas s'en passer. Et l'apôtre Paul indique, vous voyez, cette conscience, l'importance de vivre dans la sainteté. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être une occasion de chute, oui ou non ? Est-ce qu'on peut être une occasion de chute ? Est-ce que je peux aller tout à l'heure dans la rue là-bas ? Je ne sais pas laquelle rue, il y a un petit bistrot, ils vendent de la bière irlandaise. Est-ce que je peux aller, après la réunion, boire une bière sur la terrasse du café ? Est-ce que je peux y aller ? Est-ce que ça vous gêne que j'y aille ? Que je m'assoie sur la terrasse et que je boive une bière ? Tous les mardis soirs, après la réunion, et tous les jeudis soirs, après la réunion, avenue Saint-Michel, je m'assois sur la terrasse d'un café et je bois une bière. Est-ce que c'est permis ? Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça peut être une pierre d'achoppement ? Oui. Voilà. Vous voyez, c'est pas plus. Vous allez me dire, mais les autres, on n'en a rien à faire. C'est pour la liberté. Ah oui ? Mais la liberté, moi je crois qu'elle a le bonheur de faire attention à la conscience des autres.
Combien de fois m'ont invité, monsieur Gour, on s'en va, vous voulez pas venir, on va, on fait ça. Non, non, je n'ai pas dit. Ça m'arrive quand je vais en vacances, de m'arrêter, j'ai soif sur l'autoroute, oh je m'arrête, je bois une petite pression, ça m'arrive. Mais à Toulouse, vous me verrez rarement à la terrasse d'un café. Parce que trop de gens me connaissent. Vous savez, je vous avais raconté cette histoire, j'avais été à Tahiti, à l'armée, enfin, j'ai fait l'armée en Polynésie, j'étais engagé dans l'armée, et j'étais dans une caserne, et 20 ans après, j'ai été faire une mission, il y avait une église à 500 mètres de cette caserne. Et donc, je me suis dit, tu vas aller témoigner. Et je me suis dit, tu vas pouvoir témoigner. Je téléphone, je dis, voilà, je suis un ancien militaire de la caserne. Ah, venez, qu'est-ce que vous faites? Je suis pasteur. Ah, venez, venez. On y va. Puis, comme je n'avais pas de voiture, je demande à un frère de m'accompagner. Il m'accompagne avec sa voiture. Je rentre au mess des officiers. Et on me dit, voilà, je me présente, on discute, je parle de Dieu, de l'armée, je leur pose des questions. Et vous avez soif, c'est après le culte. Je prends une bière pression. Voilà, vous savez qu'il fait chaud, ça fait du bien. Et puis au bout d'une demi-heure, vous en voulez une autre? Non. Je n'en voulais pas deux. Et puis on est parti. Puis 3 mois après, je suis retourné faire une mission parce qu'on m'avait demandé d'y retourner. C'était à l'époque, avant que je sois missionnaire. Il m'avait invité plusieurs fois, bon, pour plusieurs raisons. Et la femme de ce gars me dit, pasteur, je peux te parler? Elle me dit, mon mari l'a rétrogradé, c'est devenu un alcoolique et c'est ta faute. Comment ça? Tu vois, tu as bu une bière là, au mess des officiers. Oui. Eh bien, lui m'a dit, si monsieur Gault, il peut boire une bière, eh bien, moi, je peux boire. Mais lui, bon, il ne buvait pas une bière, lui. Il buvait la caisse à chaque fois. Et cet homme, il est mort dans le péché, quelques années après. Un ivrogne fini. Alors, est-ce que j'aurais dû boire cette bière? Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai que c'est quand même un cas de conscience. Oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez me dire, ouais, mais de toute façon, s'il ne savait pas, il serait quand même tombé dans l'alcoolisme. Mais voyez ce que je veux dire? C'est quand même un cas de conscience. Oui ou non? Est-ce que c'est important la conscience pour vous? Est-ce que c'est important la conscience? Il n'y a que la foi qui est importante. Vous savez, regardez Paul ce qu'il dit dans les actes. Vous savez, la conscience. De toute façon, les gens, ils perdent la conscience. C'est tellement grave qu'il y a même des chrétiens qui n'ont plus de conscience. C'est écrit ça, ils ont perdu la conscience. Mais regardez ce que Paul dit. Lorsque Paul parle tout ça de. C'est dans Acte. Alors. Acte 24, verset 16. C'est un effort qu'il fait. Et un chrétien, il fait des efforts. Pas qu'au niveau de la foi, au niveau de la conscience. Regardez, Acte 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce. Vous y êtes ? Acte 24, verset 16. Ce sont des versets, mes frères et sœurs, qu'on devrait surligner, ça. Parce qu'un chrétien, il ne marche pas que par la foi. Il a aussi une conscience. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, une conscience sans reproche devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Et voyez, un chrétien, c'est ça. Il appartient à Dieu. D'ailleurs, c'est toute la suite. On doit faire attention. Il y a des choses, elles sont catégoriquement mauvaises. Il y a des choses, elles sont bonnes, elles sont utiles, mais il y a des choses, elles sont vraiment mauvaises. Et il y a des choses qu'on peut se permettre, mais il faut faire attention de ne pas être une occasion de chute. C'est quand même, on ne va pas partager là-dessus parce que j'en ai déjà parlé, mais il faut faire attention à tout, tout, même à la nourriture. La nourriture, il y a des gens qui sont esclaves de la nourriture. Hein. Oui ou non? Et ouais, c'est ça. Il y a des chrétiens qui sont esclaves de certaines choses. Faire du sport, est-ce que c'est bien de faire du sport? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont esclaves du sport? Ah ouais. Pourtant, je suis sûr que c'est bien. L'exercice corporel est utile à peu de choses, mais en fait, il est quand même utile. Mais il y a des gens qui sont perdus à cause du sport. Moi, j'ai vu un frère, voilà, un frère, ça m'a fait pitié, il y a quelques années, il me dit, oh, monsieur Gault, il venait tous les dimanches avec son père et avec son fils. Tous les dimanches, ils étaient là, tout le temps. Le mardi, tout le temps, ils étaient là. Et quand le gosse a 8 ou 9 ans, il me dit, monsieur Gault, mon fils, j'ai envie de le mettre au foot. Je lui dis, faites attention. Oh, monsieur Gault, soyez pas trop exigeant. Je dis, écoutez, faites attention. Quand ils sont en minime, ils jouent que le samedi. Et vous allez voir l'année d'après, il va jouer le dimanche. Non, il n'ira pas le dimanche. Il est venu, et paf, l'année d'après, plus personne. Il est venu me voir 2 ou 3 ans après en pleurant. Il me dit, on a tous perdu la foi. On a tous abandonné le Seigneur. Alors que moi, je trouve que c'est bien de faire un peu de sport. Mais je crois que quand même, On a une conscience, on doit faire attention. Moi, je ne sais pas, mes enfants, mes enfants, il faut faire attention à nos enfants quand ils sont petits. À ne pas les embarquer dans des trucs où le dimanche, ils vont plus pouvoir aller à l'église. On peut ne pas transgresser certaines lois, mais ça nous prend tellement de temps, certaines choses peuvent nous prendre tellement de temps qu'on en finit par abandonner l'essentiel. Je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. Donc, dans la dernière partie, vous avez vu, on y revient, dans la dernière partie, qu'est-ce qu'il parle ? Il parle de la débauche, de nouveau. Il parle de nouveau de l'inconduite. Il dit, mais vous ne savez pas que c'est un péché contre le corps ? Voyez, il parle des procès, il parle des péchés grossiers qu'on ne peut absolument pas accepter, de cette conscience, puis il revient sur l'inconduite. Il parle d'un homme qui couche avec une prostituée, et que c'est absolument grave. D'ailleurs, il dit, fuyez la débauche. C'est le seul péché dans la Bible qui nous est demandé de fuir. Il me semble, si je ne me trompe pas. Et l'inconduite des relations sexuelles, alors on verra, parce que le chapitre 7, c'est la relation dans le mariage. Là, c'est des relations sexuelles en dehors du mariage. Et la Bible dit que c'est un péché. La débauche, l'inconduite, la fornication, ce sont des relations sexuelles en dehors du mariage. Et quand un chrétien a vraiment donné sa vie à Jésus-Christ, il appartient à Dieu. C'est pour ça que j'ai donné comme titre « Si j'appartiens à Dieu, je vis dans la sainteté ». Nous sommes les membres du corps de Christ. Et lorsque nous vivons dans la débauche, nous devenons les membres de la prostituée. Et tout ça, c'est grave. Et aujourd'hui, on voit, mais on le voit aujourd'hui, des chrétiens qui vivent dans le concubinage, et tout ça, ça prend la Sainte-Seine le dimanche. Mais c'est grave, mais on ne peut pas s'imaginer à quel point c'est grave. Et si vous voulez vivre dans le péché, je le répète, et je suis sérieux. Si vous voulez vivre dans le péché, vivez dans le péché, mais vous n'avez rien à faire dans le corps de Christ. Je ne sais pas, moi je ne sais pas comment il faut vous le dire, mais c'est exactement ce que Dieu dit. Comment pouvons-nous être, c'est ce qui est écrit, comment pouvons-nous être membres du corps de Christ et en même temps membres de la prostituée ? Être dans le péché. Il le dit au verset 15. Vous le voyez comme moi ? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte ? Se joindre à une prostituée, enfin vivre dans l'inconduite, vivre dans le péché sexuel, eh bien c'est vraiment déshonorer le Seigneur et déshonorer le corps du Christ. Et ça, je vous assure, je me demande comment certains chrétiens voient les choses. C'est par le mariage qu'un homme et une femme peuvent coucher ensemble. Et là, ils deviennent une seule chair. Ça, c'est la volonté de Dieu. On en reparlera, Dieu voulant, mardi prochain. Et là, c'est une grande bénédiction, la vie sexuelle, dans le cadre du mariage. Mais en dehors du mariage, c'est la preuve que les chrétiens n'ont pas compris que quand ils ont accepté Jésus-Christ, ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, ils appartiennent à Dieu. D'ailleurs, c'est écrit. Est-ce que c'est écrit ? Verset 19. Comment vous le voyez, ce verset qu'on a lu, que vous avez lu déjà ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Notre corps ne nous appartient pas. À qui il appartient notre corps ? Il appartient à Dieu. Et se livrer à l'inconduite, c'est prendre ce qui appartient à Dieu et l'amener dans le péché avec un autre corps. Et on n'a pas le droit de faire cela. Quand nous nous unissons au Seigneur, nous devenons un seul esprit avec lui. Et si nous voulons être conformes au Seigneur, comme on l'a chanté, eh bien, glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans l'Église, on aime la sainteté. Oui ou non ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Si vous n'aimez pas la sainteté, repentez-vous ou partez. Ou vivez dans le monde, vivez dans le péché. Comme a dit quelqu'un un jour, soyez ou un bon chrétien ou un bon mondain. Mais choisissez. Ne soyez pas un mauvais chrétien ou un mauvais mondain, soyez l'un ou l'autre. Il faut que vous entendiez ces choses. Il faut que les gens entendent ces choses. Parce que si Dieu dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, ne vous mettez pas en tête que Dieu va faire des passe-droits. Ceux qui vivent dans le péché n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. c'est l'Apocalypse termine de cette façon, ceux qui se livrent à ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils iront en enfer, il faut le dire. Alors ça vous plaît, ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, c'est grave. Hein. Ça prouve que vous voulez être chrétien tout en aimant le péché, ça va tenir qu'un temps. Ça tiendra pas, vous rétrograderez. Repentez-vous si c'est le cas. Si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, repentez-vous. Repentez-vous. Est-ce que Dieu pardonne? Oui. Mais il faut pas se repentir à moitié. Dire bon, je demande pardon, puis je recommence. Non, je prends la victoire. Mes frères et sœurs, la vie spirituelle, c'est sérieux. Mais c'est merveilleux. Est-ce que c'est pas merveilleux d'obéir à Dieu? On a lu tout à l'heure, avant que le jeûne ne commence, le juste, il a de l'assurance comme un jeune lion. Un chrétien, il aime la volonté de Dieu. Alléluia. Vous aimez la volonté de Dieu? Si vous aimez Dieu tout en aimant le péché, je vous plains. Il vous faut choisir. Choisissez. Choisissez qui vous voulez servir. Choisissez le monde et l'enfer ou l'enfer. Et choisissez la sainteté ou la grâce de Dieu, la gloire, la paix, l'immortalité, les noces de l'agneau. Moi, je suis content quand je pense aux noces de l'agneau. Vous y pensez aux noces de l'agneau de temps en temps? Moi, j'y pense souvent. Moi, je me vois des fois en robe blanche et tout, déshabillé. Moi, je m'y vois avec les frères et les sœurs. Moi, je trouve que ça doit être bien. Je ne sais pas, j'ai jamais été. Mais je crois que ça doit être bien, les noces de l'agneau. Vous ne croyez pas? Est-ce que vous pensez que ça doit être bien? Ouais. Mes frères et sœurs, respectons le Saint-Livre. Rends-moi conforme à toi. Seigneur, c'est sérieux, mes frères et sœurs. Vous savez, les gens, ils sont scandalisés, je le répète. Vous regardez les actualités chrétiennes? Vous regardez ou non? C'est pas la peine, mais moi, si vous avez un quart d'heure de livre, plutôt que d'aller voir peut-être des bêtises, regardez Actualité chrétienne. Et vous allez voir ce qui se passe dans le monde chrétien. Vous allez avoir des frayeurs, je vous le dis. Eh ouais, parce qu'on ne respecte pas le livre. Il ne faut rien ajouter et il ne faut rien retrancher. On va terminer en priant. Que Dieu nous donne la grâce. Et lisez-le, lisez les Corinthiens, relisez ces choses. Relisez-les. Afin que Dieu nous garde. Il y a un pasteur célèbre qui a dit: où le péché nous éloignera de ce livre, où ce livre nous éloignera du péché. Et c'est bien vrai, ça. Ça, c'est bien vrai. Notre Père, nous voulons garder la parole, la serrer dans notre cœur. Ce que tu as dit est la vérité, et tu as dit que nous serions des disciples si nous gardions ta parole. Seigneur, tu vois cette confusion dans le monde entier. Tu vois l'apostasie, l'iniquité, la quantité de chrétiens qui vivent dans le péché tout en se croyant prêts à te rencontrer. Seigneur, éclaire ceux qui sont sincères. Éclaire ceux qui aiment la vérité. Tu as dit que ceux qui aimaient la vérité, tu les conduirais dans la vérité. Et ceux qui aimaient les mensonges, Seigneur, tu leur enverrais une puissance d'égarement. Nous te prions, Seigneur, pour tous les Français qui ont envie d'entendre la vérité, conduis-les dans ta maison, afin qu'ils entendent ta parole. Et garde-nous, Seigneur, parce que je le sais, nous le savons, qu'une quantité de croyants n'hériteront pas le royaume, parce qu'ils ont cherché l'inconduite. Et nous voulons la sainteté. Que ton nom soit sanctifié dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos maisons et dans cette assemblée, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Amen.